fait froid dans le dos. Et c'est vrai qu'on peut se dire, je ne sais pas si on est né au bon endroit, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas, a pas le même lot. Pour donner un autre chiffre qui fait froid dans le dos, 4476, c'est le nombre de chrétiens tués l'année dernière, en 2024, dans le monde pour leur foi, dont 3300 dans le seul pays du Nigeria. Alors le Nigeria a été mis en avant dans l'actualité, je ne vais pas trop commenter dessus, parce que je n'ai pas forcément d'accord avec ce qui a été dit par Donald Trump, mais qui s'est appuyé cela pour menacer le gouvernement d'une intervention armée. Au Nigeria, sachez qu'il y a 16 000 chrétiens depuis le début qui ont été tués, essentiellement par Boko Haram. On avait beaucoup entendu parler. Beaucoup de situations où le monde oublie, hein, et en particulier, c'est pour ça que j'avais à cœur un peu l'Afrique. Une autre situation en Afrique qui est totalement oubliée, c'est la situation au Soudan, qui est classée maintenant numéro 5 sur l'index mondial, où il y a, pour les chrétiens, des violences, des tortures, des exécutions pour leur foi. Alors, on peut se sentir très loin, et je vous le dis pour moi, je me sens loin de ces soucis, hein, dans notre vie ici. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est, merci pour vos prières déjà, et ça peut être soutien pour envoyer, c'est ce travail formidable de porte ouverte qui a toujours eu à cœur d'aider, de former, vous voyez, toutes ces actions. Et la question, je pense qu'on se pose, en tout cas à vous, mais j'entends plusieurs le dire, si nous étions persécutés, comment réagirons-nous quand on voit l'exemple d'Omar? Je vais juste vous rappeler que en France, alors c'est sûr que ça fait, je ne sais pas, plusieurs centaines d'années, 400 ou 500 ans, les protestants ont été persécutés pour leur foi, hein, je ne vais pas oublier non plus, et comment, voilà, beaucoup sont sacrifiés, on se cachait pour lire la Bible. C'est quand même une réalité, hein, parce qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas le même temps que nous, et certains envoyés aux galères qui ont tenu bon. Alors oui, nous ne savons pas comment nous réagirions sur la torture, sur la menace de mort. Certains vont renier leur foi et on ne peut pas leur jeter la pierre. Et ça peut être difficile pour nous, mais en fait, si on y réfléchit, dans notre vie de chrétien, nous aussi, on peut être persécuté d'une certaine façon, ça peut faire mal, ça n'a rien à voir. Mais la persécution, c'est aussi qu'on se moque de nous, qu'on ne comprenne pas notre foi, qu'on soit mis à l'écart parce qu'on est chrétien. Ce n'est pas si loin que ça, des petites choses. Et ça aussi, c'est une souffrance. Alors, ça peut être simplement voilà, des obstacles mis sur le travail. Aujourd'hui, c'est parce que nos situations sont tellement ridicules vis-à-vis de ces gens. Mais chacun vit sa situation. Je me souviens, quand j'ai été converti, dans mon entreprise, comme chef de département d'ingénieur, eh ben, oui, il y avait des choses qu'on m'a demandé de faire. Et pour témoigner de ma foi, je disais, ben, non, on voulait que je paye une facture. J'ai dit non, je ne le ferai pas. Ça a fait tout un scandale. Le directeur général m'a dit, mais tout le monde a toujours fait, tu vas faire comme ça, au risque de perdre votre emploi. Je ne m'en glorifie pas parce qu'il y a bien des fois où j'ai eu honte de l'Évangile, où je n'ai pas envie d'avoir ça. Et quand je pense à ça, j'aime bien me rappeler Pierre, l'apôtre Pierre, le grand apôtre. Est-ce qu'il ne va pas, lui, renier Jésus pour ne pas être persécuté? Et Jésus le regarde et il comprend. Et Dieu, Jésus lui pardonne. Alors, c'est à Jésus qui nous relève. Ce que je veux nous dire, c'est que ce qu'a dit Jésus en Jean 15, 20, c'est « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître s'ils m'ont persécuté. » Ils vont persécuteront aussi. Et puis, il faut peut-être se préparer à un temps où l'Église occidentale sera aussi persécutée. Et ça ne sera peut-être pas le même ennemi. Peut-être l'ennemi, ça sera la culture générale, la loi imposée. Ça commence à se sentir sur les lois, sur les genres, sur la sexualité. Et je vous le dis, je pense que nous verrons en France des pasteurs emprisonnés pour ce qu'ils disent en public. Ça viendra un jour. Je ne sais pas si on peut parler de la théorie des genres sur la chair, Et si je vous dis publiquement ce que je pense, que Dieu a créé l'homme et la femme, aujourd'hui, ça sera contraire. Alors, il y a eu beaucoup d'autres luttes, n'est-ce pas, que comprenons. Je vais vous faire comprendre que l'ennemi utilise pour la persécution des choses qui ne sont pas celles qu'on pense. Et bien sûr, on pense à ceux qui vont mourir, mais c'est aussi de faire mourir notre foi et nos convictions. C'est une forme de persécution. Alors, l'histoire, mais dans toutes circonstances, même peut-être que nous sommes faibles sur de petites choses, et Jésus ne nous jette pas la pierre. Mais quand on a le pardon de Jésus, il nous donne l'assurance. L'assurance d'avancer avec lui. Et il nous dit que dans toutes les circonstances, même les plus difficiles, il sera avec nous. C'est vraiment ce qu'on entend. Et moi, je vous dis, si vous êtes confrontés à cela, c'est Dieu qui, à ce moment-là, vous en donnera la force. Nous ne pouvons pas le savoir maintenant. Que de actes héroïques de simples chrétiens, de cette petite fille qui prie pour ceux qui se moquent d'elle sur le chemin de l'école. Voilà, quelle leçon. Alors, pour venir à la prédication, l'histoire du peuple d'Israël peut sans doute nous instruire. N'oublions pas que le peuple d'Israël est le peuple élu et qu'une fois entrés dans le pays promis, ils font face à une persécution de leurs ennemis puisqu'ils n'ont pas tout le pays promis, notamment un peuple dont on parle parfois, les Philistins, qui leur font la guerre et qui les empêchent de prendre possession de la terre promise. On peut y voir, sans trop faire un parallèle avec la mission de l'Église d'annoncer l'Évangile à toutes les nations, qui est la mission, allez, faites de toutes les nations mes disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et l'hostilité des nations grandissantes à l'égard de l'Église, ces chiffres sont surprenants. Je vous propose donc de lire un passage, et je demandais à Jean-Pierre, je me demandais s'il peut prier pour le prédicateur et pour la prédication. Amen. Le texte, la lecture qui nous est proposée est par porte ouverte, c'est une lecture de 1 Samuel, le prophète Samuel, donc 1 Samuel, chapitre 7, les versets 1 à 12. Donc, un texte de l'Ancien Testament. Des fois, on peut se dire comment l'Ancien Testament peut nous parler et comment peut-il parler à l'Église persécutée. 1 Samuel 7, versets 1 à 12, je vais en faire la lecture. Les gens, c'est le temps que vous trouviez pour ceux qui cherchent, les gens de Kirjat Jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinabad, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps, depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jearim. 20 années s'étaient écoulées. 20 années. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés. Et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne sois-ce point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Gar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il l'appela du nom d'Eben-Ézer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » C'est donc le verset qui nous est proposé. L'Éternel, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Donc, on va suivre une réflexion autour de ce texte en trois parties. D'abord, un contexte spirituel troublé. Une alliance qui est mal comprise du peuple d'Israël. Une oppression qui ramène le peuple à Dieu. Un contexte spirituel troublé. Cette histoire se déroule dans un contexte difficile du peuple d'Israël. La relation entre Dieu et son peuple est en dents de scie, avec une espèce de cycle qui se répète chaque fois, qui est dans le livre des Juges. D'abord, Israël commence par s'éloigner de Dieu. Ils vont adorer les idoles avec les gens dans les pays où ils sont, avec les peuples voisins. Et puis cet éloignement empêche la bénédiction de Dieu et la protection. Alors, les ennemis d'Israël peuvent prendre le dessus sur eux, les maltraiter. Après quoi, Dieu envoie un homme, appelé juge dans la Bible. Mais le mot juge ici, c'est plutôt un prophète, c'est quelqu'un qui va être un guide. Et ici, c'est Samuel. C'est un homme qui les ramène. Il ramène le peuple pour le délivrer et le délivre de l'oppression. Et puis ça recommence. La deuxième chose qu'on peut noter, qui peut nous parler dans ce texte, c'est que l'alliance qui est matérialisée par l'arche de l'Éternel est assez mal comprise. On ne va pas revoir toute l'histoire là, mais il faut comprendre qu'en fait, il laisse l'alliance, qui est l'arche, qui est la présence de Dieu, pendant 20 années à cet endroit, chez quelqu'un, parce qu'avant, ils ont vu qu'il y avait des malédictions, et ils ont un peu peur de tout ça. Et ils considéraient finalement, après 20 ans, que le fait d'avoir cette arche de l'Alliance à ses côtés, un coffre sacré, c'était un peu quelque chose qui les gardait du mal. En fait, c'était ça qu'ils pensaient, ils la laissaient là, et que c'était un peu une garantie pour gagner des batailles. Ainsi, ils avaient peu à peu mis à l'écart leur culte à Dieu. Comme je l'ai dit, ils avaient sans doute peur de gérer cette présence de Dieu parce que si on s'approchait, si on touchait, peut-être on pouvait mourir. C'était pas très clair. Et ils vont même jusqu'à, si vous le voyez, élire eux-mêmes le fils de la maison où c'était hébergé comme le prêtre. C'est lui qui devient, c'est eux qui décident. Ils disent, tiens, voilà, on va te nommer prêtre, c'est là où la maison. Cette situation peut tout à fait illustrer, me semble-t-il, la situation pour notre Église aujourd'hui, des fois. Comme pour le peuple juif, peut-être pouvons-nous voir dans le Code de l'Alliance notre Église construite sur des habitudes passées. Nous pouvons avoir oublié ce que Dieu demande vraiment à son Église. Peut-être avons-nous choisi nous-mêmes aussi nos propres serviteurs de Dieu. Peut-être avons-nous créé des rites, et ça nous arrange bien, parce que finalement, dans les rites, on est tranquille, on n'est pas, on n'a pas peur de la présence de Dieu. Peut-être avons-nous peur de ce que Dieu voudrait nous demander de faire, et nous préférons fonctionner, mettre de côté ce qu'il y a pendant des dizaines d'années en nous appuyant sur une fausse sécurité. Peut-être avons-nous laissé notre Bible dans un coin de peur de découvrir ce que la parole de Dieu avait à nous dire et qu'on doit réapprendre à s'en servir. Et donc, à ce moment-là, il y a une sorte d'oppression qui tombe sur eux et on voit que c'est l'oppression qui ramène le peuple à Dieu. Le peuple, il est le peuple élu de Dieu au pays promis, mais les Philistins les persécutent. Et elle est de plus en plus grande contre eux. Et du fait de cette épreuve, et c'est du fait de cette persécution que le peuple revient à Dieu. C'est ça qui est dit dans le passage. Le peuple revient parce qu'il voit que Dieu, qu'ils sont persécutés et ils demandent l'aide de Dieu. L'oppression est donc dans ce cas, hein, le moyen utilisé par Dieu pour faire revenir le peuple à lui. De même, je vois dans les témoignages d'Omar, ou de cette petite fille, combien dans ces histoires, il nous raconte qu'au moment de la mort, il demande l'aide de Dieu. C'est souvent quand on est au bout du bout qu'on peut demander l'aide de Dieu. Alors, c'est différents types de persécutions, mais on voit. Et Dieu, dans le cas d'Omar, c'est frappant. Dieu répond de façon miraculeuse. Et là, Dieu répond au peuple juif de façon miraculeuse, mais au travers du prophète Samuel. Et alors, ils vont avoir une nouvelle intimité avec Dieu. Et c'est Samuel qui est envoyé comme juge par Dieu, qui va leur dire ce qu'il faut faire. Notez que Samuel est le prophète de Dieu choisi par Dieu et non par le peuple. Et son attitude nous parle de la manière dont Dieu lui-même réagit vis-à-vis du peuple. Nous notons que lorsque le peuple vient le voir dans une démarche sincère, malgré tout ce qu'ils ont fait avant, Samuel les accueille favorablement, comme Dieu lui-même qui nous accueille favorablement quand nous avons une démarche sincère. Et Samuel leur dit « Assemblez tout Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. » Et donc il dit « Je vais prier pour vous. » Il est tellement réconfortant de voir vraiment que Samuel, serviteur de Dieu, ne fait aucun reproche au peuple. Il leur dit juste ce qu'ils doivent faire, comme Dieu non plus n'en fait pas lorsque nous nous tournons avec sincérité vers lui. Et Samuel va encourager le peuple à aller encore plus loin dans cette démarche. Et quand ils disent, verset 1, ils disent au verset, ils diront à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait, donc il fait ce qu'il semble savoir qu'il faut faire. Il prend un agneau de lait, il l'offrit tout entier en holocauste. Et donc, on voit que Dieu parle au travers de son serviteur qu'il a choisi. Deuxièmement, une repentance profonde et sincère. Samuel réinsiste sur la sincérité de la repentance. Au verset 3, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ben la repentance, c'est aussi une action ôtée du milieu de vous, les dieux étrangers et l'Astarté. Ce n'était pas juste qu'ils se repentent, mais ils avaient avec eux d'autres idoles. Et il dit, il faut jeter tout ça. Il dirige, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et c'est ce qu'ils vont faire, prouvant leur repentance et qu'ils vont jeter toutes ces idoles. Ils vont réaliser ce qu'ils ont fait et vont tout jeter. Le Seigneur ne peut pas se satisfaire de démarches formelles ou liturgiques si elles ne sont pas vécues profondément et en vérité. Il désire que nous manifestions un élan sincère vers lui une repentance profonde. Lorsque nous revenons à Dieu, faisons-le sans arrière-pensée, il ne nous juge pas, mais de tout notre cœur, jetons ce qui nous embarrasse. Avec l'aide de Dieu, s'il le faut, jetons ces mauvaises pensées, ces mauvaises choses qui nous assaillent. Et alors, ils se tournent vers Dieu en pleine sincérité. Et qu'est-ce qu'ils font ? Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Et Samuel dit : Assemblez tout Israël à Mitzpa, et je prierai l'Éternel pour vous. Voilà. Dieu délivre et restaure. Les Philistins vont voir cela, et comme ils vont tous se rassembler, à ce moment-là, franchement, ils pourraient penser, on a voulu faire ça, mais c'est encore pire qu'avant. Parce que maintenant qu'ils sont rassemblés tous ensemble, les Philistins, c'est le bon moment pour les attaquer. En plus, ils sont en train de louer Dieu, ils sont en train de répandre de l'eau là-bas, on va les attaquer. Franchement, à leur place, à ce moment-là, ils vont dire, mais j'ai fait confiance à Dieu, mais regardez, tout est perdu. Tout est fini pour nous. Mais ils gardent leur foi et on voit que, alors que les Philistins qui attaquent, ce n'est pas eux qui se défendent, c'est Dieu qui intervient. On voit qu'il intervient miraculeusement dans ce cas. Comme pour Omar, c'est Dieu. C'est Dieu qui leur accorde une pleine délivrance parce qu'ils ont fait confiance à Dieu. Ils repoussent l'ennemi à la frontière. Et cela illustre ce que Dieu peut et veut faire dans nos vies, ce qu'il veut faire dans son Église. Il souhaite restaurer et bénir dans son Église dans de nombreux domaines. Si nous nous repentons, si nous revenons et que nous jetons les idoles, mais lui, c'est lui qui agit. Alors, cette victoire, parce que c'est une victoire qu'il voit, c'est intéressant de voir, qui est le verset donné, qu'il va poser une pierre est posée, alors c'est symbolique, pour commémorer, c'est la pierre Ebon Ezer, ça veut dire pierre du secours, enfin, parce que c'est quand même bien un temps de délivrance et de repos après cette persécution. Ils vont maintenant bénéficier d'une paix durable. Et c'est là où est ce verset de Samuel qui dit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Malgré ces chutes périodiques d'Israël dans le péché, à aller avoir des idoles, on voit que Dieu a toujours été fidèle. Il a veillé sur son peuple pour le ramener à lui et le sauver. Il ne manque jamais de répondre lorsque le peuple se tourne vers lui avec une repentance sincère. Et c'est en ce sens que ce passage peut parler chrétien persécuté, mais peut nous parler. Alors, quelle application pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens dans l'Église ? 1. Reconnaissons que nous avons parfois oublié la véritable alliance avec Dieu. Et prions que Dieu nous rappelle ce qu'est l'alliance véritable. Prions Dieu qu'il envoie des serviteurs qu'il est lui-même consacré et oint. Deuxièmement, repentons-nous d'un cœur sincère pour nos erreurs passées ? Est-ce qu'on est prêt à jeter certaines idoles pour revenir à Dieu ? Jeter les idoles de ce monde, parce que des fois, nous aussi, on se laisse... Les idoles d'Astarté, c'est les idoles de ce monde, et ça nous plaît aussi, c'est réconfortant, on se tourne vers certaines idoles de ce monde. Et troisièmement, ne craignons pas la persécution. On ne sait pas, peut-être Dieu enverra des épreuves, on ne va pas le forcer. Mais pour nous, les épreuves, c'est le monde. C'est plutôt les tentations. Les tentations d'avoir d'autres idoles. C'est les tentations, c'est les hostilités des petites épreuves. Alors, sommes-nous prêts à les rejeter, à supporter certaines attaques, certaines critiques ? Eh bien, demandons l'aide du Saint-Esprit, même si elles sont petites. Ce n'est pas forcément que c'est facile de lutter contre. Il nous faut l'aide du Saint-Esprit. Et puis, le quatrième, qui est beau aussi, parce que nous avons eu des victoires. Posons une pierre de temps en temps pour remercier Dieu. C'est ça qui est beau, parce que on peut voir, voilà, il y a un combat et des combats où Dieu est déjà venu. Se souvenir de ce que Dieu a déjà fait pour moi dans ma vie, dans ta vie, ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il a fait d'extraordinaire dans ta vie pour te sauver, peut-être pour te délivrer de la maladie, peut-être tu l'as oublié, mais non. Pose une pierre pour ce qu'il a fait. Pose une pierre pour ce qu'il a fait pour l'Église. Pose une pierre parce que l'Église a pu survivre, grandir. C'est autant de témoignages pour honorer la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Alors, comme Samuel, nous pourrons dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, nous fortifiant en foi et nous en gagnant en maturité. Et c'est un peu la conclusion pratique pour nous. Une foi qui gagne en maturité. Considérons la grande fidélité de Dieu dans notre marche à ses côtés. C'est ça qui est important. La manière dont il permet aux épreuves de nous ramener constamment à lui. Réjouissons-nous pour les délivrances apportées, pour sa bienveillance déjà démontrée. Appuyons-nous sur ses victoires passées pour apprendre à revenir à lui dans l'humilité pour les combats qui nous dépassent, qui sont là. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et il sera notre secours à tous, encore dans l'avenir et pour l'éternité. Amen. Si on va enchaîner. Je pense que c'est un bon... Marquer une pierre, je pense que quelque part, quand Jésus... donne l'ordre à ses disciples de partager le pain et le vin, c'est une façon de marquer la pierre la plus importante. Celle qui nous a arraché des griffes de la mort certaine. Et quelque part, Dieu sait qu'on a besoin de cela. Je pense donc que c'est un bon moment pour qu'on partage ensemble le pain et le vin qui nous montre, qui nous rappelle ce que Christ a fait pour nous. Comment il est mort, ressuscité, et que nous le reverrons dans la vie éternelle. Donc, on n'est peut-être pas nombreux, donc comme on n'est pas nombreux, si vous voulez, peut-être des personnes ne peuvent pas se lever, on se met en cercle, et ceux qui ne peuvent pas se lever peuvent rester assis. On peut essayer de se lever, faire circuler les éléments. Je n'ai pas prévu une personne pour partager le pain et le vin. Bien sûr, si quelqu'un, voilà, vous se mettez, si quelqu'un veut être assis, il peut mettre une chaise, voilà, on va vous aider pour mettre une chaise au milieu. Et puis quand même quelqu'un pour, voilà, aider, vous approcher. Même si tu veux venir, voilà, je vais venir. Bien sûr, si pour une raison ou une autre, quelqu'un... ne veut pas prendre le vin, il nous est demandé dans la parole de nous examiner nous-mêmes, hein, avant de prendre le pain et le vin. Là, vous pouvez dans votre cœur demander aussi le pardon pour vos péchés. C'est le bon moment. Voilà, n'hésitez pas à mettre une chaise. C'est le bon moment pour demander le pardon pour nos péchés, pour ce qu'on a fait peut-être de mauvais dans la semaine ou avant. Et de ne pas se priver du pain ou du vin, mais sinon, voilà, vous pouvez pas, si vous ne pouvez pas le prendre, vous pouvez passer les éléments. Mais il est bon de demander à Dieu de nous pardonner nos péchés. Si quelqu'un veut prier avant que je lise l'instruction pour le pain, et quelqu'un pour le pain, Rupert, et pour le vin, Destin.
Seigneur Dieu, donne-moi grâce, Père, pour ce que tu as accompli pour nous, Seigneur Dieu, à la croix, Seigneur Dieu. Ton Fils, Seigneur, qui s'est pardonné, Seigneur, et qui a pris sur lui nos péchés, Seigneur. Oui, par la meurtre sur que nous avons la guérison, Seigneur. Seigneur, que nous allons prendre ce pain, Seigneur, qui représente le corps de ton Fils, ce corps qui a été meurtri à la croix pour nous, Seigneur. Merci pour ce sacrifice, pour ce grand prix payé pour chacun de nous, Seigneur Dieu. Que chacun puisse prendre ce pain, Seigneur Dieu, et se souvenir de ce qui a été accompli pour nous. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Fait passer, je vais rappeler une lecture, le début 1 Corinthiens 11, 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et après, je ferai après le vin. Amen. Je vais faire la lecture pendant que tu distribues. De même, après le repas, il prit la coupe et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » On a prévu un autre chant, si tu veux. Voilà.
Merci Seigneur, parce que tu m'as permis de revenir dans ta maison, Seigneur. Merci Seigneur, parce que j'étais vraiment éloigné, je t'avais abandonné, je t'avais quitté. Je ne voulais même plus en parler de toi. Mais il a fallu que ma fille me remette sur le bon chemin pour que je comprenne, Seigneur, que j'étais perdu et que si je ne revenais pas à toi, Seigneur, je ne te reconnaîtrai peut-être plus jamais. Merci Seigneur de pouvoir me bénir, de pouvoir. Merci de la joie que j'ai de chasser en ce moment avec tous ces frères et sœurs. Merci Seigneur de me renouveler dans ma foi, de pouvoir repartir du bon pied, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne.
Amen.
Amen. Amen. En Jésus seul est mon espoir. On va chanter. Lui, ma lumière, ma force, mon chant. On va le reprendre. C'est toi qui prends la suite, non? J'ai fait un peu la panique, je crois.
Ah oui.
Je sais plus.
Après, tu fais venir Véronique.
Non, c'est toi après qui prends. J'interromps, moi je vais prendre. Oui. Lumière vaincue par les